Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Bonjour docteur.
Bonjour Fabrice.
Jacques Bassier sur Nutri Radio, on vous a rebaptisé le conducteur du train de la connaissance. Et vous savez, le petit harmonica là, en fait ça va être tchou-tchou. Je vais peut-être faire un petit mixage.
Il va falloir changer.
Il peut y avoir un truc, c'est un hommage. Si vous voulez comprendre ce petit clin d'œil, rendez-vous sur la partie podcast de Nutri Radio, les médias, voilà.
Et ma photo, tu vas me mettre en cheminot alors.
La photo, ça peut être une bonne idée. Voilà. Si vous allez voir docteur Jacques Bassier, il y aura toujours les lunettes, mais habillé en cheminot. Ça peut être effectivement très sympa. On a parlé la semaine dernière des hormones thyroïdiennes. Alors, vous allez voir que toutes ces émissions, elles ont un sens logique. Vous êtes dans le train, dans ce train de la connaissance, une meilleure connaissance de la physionutrition. C'est un peu l'objectif. Physionutrition.
Bravo.
Chaque jeudi, 10h-11h, sur Nutri Radio. Donc, on a parlé il y a deux semaines des hormones et métabolisme, de l'insuline. Voilà, il y a trois semaines, plus ou moins. Enfin bon, vous savez ça dans l'ordre, c'est dans l'ordre sur la partie médias et podcast de Nutri Radio. La semaine dernière, c'était les hormones thyroïdiennes. Et là, on s'est dit, on va parler des hormones de stress, docteur. Des hormones déstress.
Il y a déstress.
Eh oui, stress. C'est vrai ça, mais c'est d'ailleurs.
On parle de stress psychologique tout le temps, mais il y en a plein de stress. Vous mangez pas, c'est un stress. Vous avez froid, c'est un stress. Vous montez en altitude, c'est un stress aussi. Alors, qui a parlé stress, ça vient de stringere du latin, ça c'est ma culture générale. Ce qui veut dire serré. Donc, on est serré, on est contraint comme ça. D'ailleurs, c'est un terme physique au départ. Donc le stress est utilisé pour la contrainte des matériaux. Et c'est un endocrinologue dans les années 1930, c'est Hans Selye qui a commencé à parler de, qui a introduit le mot stress. Or, il l'a fait dans le cadre du stress psychologique, mais en réalité, donc, quand on parle d'hormonologie aujourd'hui, on parle d'hormonologie au sens stress divers et variés, comme je viens de vous le préciser. Et donc, il y a des stresseurs. Il y a des stresseurs, et le stresseur, au-delà de Fabrice qui est en face de moi, qui peut être un stresseur,
non,
il est gentil, c'est un no-stress. Mais il y a le stress thermique, par exemple. Donc, quand vous allez faire du sauna, ben, vous créez un stress, qui est la température, et vous allez devoir vous adapter à ça. Mais là, c'est par exemple, vous allez suer, vous allez vasodilater vos vaisseaux, vous allez devenir tout rouge des fois. Et ça, c'est l'acétylcholine qui va jouer. Qui va se mettre en marche pour pouvoir faire cette adaptation-là. Quand vous avez le froid, vous êtes glacé, mais là, c'est des frissonnements, des vasoconstrictions qui vont nous permettre mécaniquement de résister au froid. Par les petites vasoconstrictions, les frissonnements, vous essayez d'augmenter votre température corporelle. C'est rigolo comme truc, hein. Il y a des petits frissonnements, et ben ça fait un frottement et ça augmente un peu la température. Donc on a moins la sensation de froid. Ça, c'est l'adrénaline et la noradrénaline qui vont être chargées de faire ce genre de truc-là. Quand vous manquez de nourriture, vous avez vu que quand on avait parlé de l'insuline, ben là c'est le glucagon. Vous manquez de nourriture, ben vous allez libérer du glucagon pour déstocker ce que vous avez stocké grâce à l'insuline. Donc c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes déshydraté, tiens, on avait parlé du sport, j'avais dit que c'était vraiment important de quand on courait de s'hydrater parce qu'on perdait de l'eau, pas du gras comme tu avais dit. Quelle erreur.
C'est boutade.
Je sais, j'ai bien compris.
Tu sais, quand on mange bien gras, là, après on va courir, et quand on transpire, on imagine que c'est le gras qui s'en va. Là.
Ben, la conservation de l'eau. Quand on est déshydraté, on va essayer de conserver, ben, on ne veut pas trop en perdre. Mais là, il y a des hormones, une hormone qui s'appelle la vasopressine, une autre qui s'appelle l'aldostérone, qui vont agir et qui vont nous permettre de maintenir l'eau dans le corps. Je peux continuer comme ça, tu vas à la montagne, tu es allé au ski cette année ?
Oui, ouais, je suis allé.
Oui. Ben, quand tu vas à la montagne à partir d'une certaine altitude, souvent au-dessus de 1000 mètres, donc il y a une baisse de l'oxygène, ben, ton corps va devoir s'adapter à cette baisse d'oxygène, qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, tu vas essayer de faire des globules rouges. Un peu plus, si tu restes longtemps. C'est le rôle de l'érythropoïétine, l'EPO. C'est un dopage, ça.
L'EPO.
On prend de l'EPO, mais les gens, au lieu de perdre de l'EPO, ils vont s'entraîner en altitude. Les sportifs le savent. Ils vont en fond romeux s'entraîner, par exemple, à 1800 mètres, et là, ils font de l'EPO. Ils vont multiplier leur... C'est un stress. Si vous faites de l'exercice physique, c'est le cortisol. Pour mobiliser l'énergie, ben vous allez sécréter votre cortisol, qui est aussi l'hormone du stress psychologique, mais qui est l'hormone du stress physique. C'est grâce à ça que vous allez mobiliser l'énergie grâce au cortisol pour subvenir à vos besoins de votre activité physique. Et quand vous avez un stress psychologique, là, s'il est court, dans la courte durée intense, c'est l'adrénaline. Vous avez le poil qui se dresse, transpirer, vous avez envie de faire pipi et vous avez le cœur qui palpite. Ça, c'est l'adrénaline qui va commander, cette hormone qui va commander un petit peu ces fonctions-là pour réagir devant le danger. Mais si ça dure dans le temps, et que ça nécessite donc de l'énergie dans le temps, c'est le cortisol qui prend la suite, et qui va être là pour mobiliser, tant que possible, l'énergie devant ce stress, y compris psychologique, parce que vous savez que quand on a peur, quand on est tendu, quand on est soucieux, on dépense beaucoup, beaucoup plus de calories que quand on est calme. On a le cœur qui va un peu plus vite, la tension qui monte, tout ça, c'est dépenseur de calories. Donc il faut du carburant, c'est le cortisol. Sauf que quand on le fait trop longtemps, c'est pas terrible. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comment ça marche. Alors, on n'est pas tous égaux devant le stress, parce qu'il y a des stress qui sont bons. Le petit stress aigu qui nous fait réagir en danger, il est bon celui-là, il n'y a pas de souci. Quand il est aigu et épisodique, ça peut encore aller. Une fois, deux fois, trois fois, ça passe. Mais à terme, même dans ce cadre-là, quand c'est trop fréquent, ça devient nocif. Et alors, le pire, c'est quand ça devient dans la chronicité, quand c'est tout le temps. Là, nos hormones du stress, quelles qu'ils soient, rester tout le temps dans le froid, rester tout le temps dans la chaleur, vous adaptez, mais quand c'est trop chaud, trop froid, c'est pas bon. Ben, trop de stress psychologique, c'est pas bon non plus, évidemment.
On va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Et on parle du stress aujourd'hui avec le docteur Jacques Bassier, et plutôt du stress, des stress. Les hormones des stress. Alors, si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, quand on a faim, on manque de nourriture, on va créer du stress.
Oui, c'est un stress métabolique.
Si on manque de froid, on va créer du stress parce qu'on a trop chaud. Si on manque de chaud, on va créer du stress.
Je sens quelque chose qui va arriver.
Si on manque de sexe, est-ce qu'on est stressé?
Je sentais.
Est-ce que ça crée un stress?
Ça montait. C'est pas normal, ça monte.
Non, mais je veux savoir, est-ce que c'est. Voilà, vous avez dit que c'était pas bon. Moi, je veux savoir, est-ce que ça peut aussi créer du stress?
Mais bien sûr, tout ce qui est inhabituel, ou en tout cas qui est mal vécu, comme un manque ou comme une peur ou un truc comme ça, c'est un stress. Simplement, voilà, une fois peu, c'est pas grave. Beaucoup, ça devient gênant.
Bon,
alerte, alarme.
Alerte, résistance, épuisement. Donc, quelles sont les hormones?
Le stress, c'est ça. C'est-à-dire que le stress, ben, ça a été décrit, il y a trois phases globalement. On dit la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase de stress. Là, on parle de stress psychologique principalement. C'est que si vous avez un petit stress ponctuel ou quoi, c'est une alarme et vous répondez à l'alarme et après vous coupez l'alarme et ça va, c'est pas... Le problème, ça commence à devenir gênant quand on rentre dans ce qu'on appelle une résistance au stress. Une résistance au stress, c'est-à-dire que ça va durer longtemps. Donc je rentre en résistance. On peut l'appeler aussi en médecine par un burn-in. Le burn-in, c'est-à-dire, c'est l'opposé du burn-out, qui est très utilisé, trop utilisé bien sûr, qu'on pourrait appeler épuisement. Donc il y a trois phases en réalité dans le stress. Une phase d'alarme, le passe, ça va. Ça continue, je rentre en résistance. Et quand la résistance a duré trop longtemps, eh ben, je vais m'épuiser. Donc résistance, c'est burn-in. Et épuisement, c'est burn-out. Mais burn-out, vous verrez, épuisement, burn-out, c'est deux choses différentes. Mais bon, globalement, c'est un petit peu dans cet esprit-là, dans ces phases-là. Et suivant la phase dans laquelle je suis, si je suis dans une phase de résistance, c'est pas du tout le même fonctionnement hormonal que si je suis en phase d'épuisement, bien sûr. Vous avez bien compris que si je suis épuisé, a priori, les hormones sont épuisées avec. Hein. Et quand je suis en résistance, que je lutte contre le truc, ben là, les hormones sont plutôt élevées. Mais pas toutes. C'est là où c'est très intéressant, parce que moi, j'ai un petit dada. C'est essayer de rapprocher, j'adore les hormones, mais au-delà des hormones, je dis toujours, et je crois que je vous en ai parlé la première fois où on s'est vu, quand on a fait la deuxième émission, quand on a fait l'hormononutrition, les hormones, c'est des messagers. Mais il n'y a pas que les hormones comme messagers dans le corps. Il y a les neurotransmetteurs qui sont des messagers aussi, la sérotonine, la dopamine, toutes ces choses-là, qui vont dans le cerveau ou dans le corps envoyer des messages. Neurologique principalement, et il y a l'immunité qui a plein de messagers. On appelle ça les cytokines, les chimiokines, enfin c'est des noms complexes, mais c'est des petits messagers qui vont être véhiculés dans le corps pour avoir une adaptation, une fonction. Et bien, le stress, dans les phases de résistance et dans les phases d'épuisement, vont pas que jouer sur les hormones, mais impacter aussi la neurotransmission et impacter aussi notre immunité. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une phase de résistance, vous êtes en résistance, votre cortisol est toujours élevé. Vous faites ce qu'on appelle un hypercorticisme fonctionnel. On va augmenter aussi son petit copain, on y reviendra une autre fois, je pense, la DHEA, dont on a beaucoup parlé, l'hormone de jouvence, l'hormone du anti-vieillissement, la DHEA. C'est une hormone qui est sécrétée par les surrénales et qui fait contrepoids au cortisol. Voilà, elle essaie de rééquilibrer ce que le cortisol abîme. Le cortisol est catabolisant, la DHEA est anabolisante, donc elle répare ce que le cortisol abîme. Voilà. Donc les deux sont sécrétés beaucoup quand il y a une phase de résistance. Ben, à côté de ça, il y a des hormones qui vont être un peu réfrénées. En résistance, la thyroïde, elle va commencer à tirer la langue. On va moins l'exploiter parce que le stress, comme on avait parlé lors du métabolisme de la nutrition et quand on fait un régime longtemps, notre thyroïde se met au repos. Mais là, quand on est stressé longtemps, notre thyroïde, pour tenir, elle se met au repos aussi. Elle essaie de moins dépenser de calories. Elle nous fait moins dépenser de calories. Donc il y a des hormones qui sont réfrénées, d'autres très augmentées, et ça a des répercussions sur notre immunité. Quand vous avez un stress déjà en résistance, un hypercorticisme, vous avez un phénomène pro-inflammatoire et une immunosuppression. Notre immunité, dans ces situations-là, on attrape tout ce qui passe et on s'enflamme. Et au niveau de la neurotransmission, rapidement, quand ça dure trop longtemps, on a des neurotransmetteurs qui vont agir sur notre humeur et qui vont être dérégulés. On va être irritable dans un premier temps, avant d'arriver à un épuisement aussi, une fatigue, un manque d'envie, manque d'entrain. Voilà. Vous voyez, tout ça, on ne peut pas dissocier les hormones du reste. C'est des messagers qui interagissent entre eux, quels que soient les systèmes immunitaires, neurotransmission ou hormonaux, et tout ça va marcher main dans la main. Et le stress est vraiment un modèle merveilleux de dysfonctionnement quand ça dure trop longtemps, quand il est dans la phase de résistance. Et la phase d'épuisement, c'est simple, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout est en bas. Les hormones, le cortisol, ils chutent. On fait de l'hypocorticisme. Là, on est fatigué le matin, on est fatigué à midi, on est fatigué le soir. Dès qu'on fait un sport, si on arrive à le faire, on est fatigué après. Enfin voilà, il y a toutes ces phases-là. On a des symptômes cliniques qui vont avec les sécrétions hormonales et ces interactions hormonales. Donc on a des symptômes cliniques, psychologiques, immunitaires, hormonaux. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Le stress est un vrai tueur. Ponctuel, il est génial. Il nous permet une adaptation. Quand tu as des examens, ben, tu vas travailler peut-être toute la nuit, mais grâce à ce stress de l'examen, de la réussite, tu vas te donner les moyens de réussir. Après, tu récupéreras et ponctuellement, c'est pas un problème. Si ça dure pendant des mois, là, c'est épuisant. Ce qu'on fait en médecine, on épuise les étudiants en médecine parce qu'on leur demande de trop pendant des mois. Des fois, il y en a qui craquent avant la fin des examens.
C'est fait exprès, ça, non?
C'est peut-être une manière de sélection, oui. C'est sélection naturelle. Je ne sais pas si elle est très naturelle.
Ouais. Est-ce que à chaque étape, donc, il y a l'alarme, la résistance, l'épuisement, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, justement, et surtout entre la résistance et l'épuisement? Parce qu'en général, l'alarme, on n'en tient pas forcément compte, on dit « allez, on continue ». Et quand on est voilà, entre la résistance et l'épuisement, est-ce que c'est déjà trop tard?
Ça, c'est une excellente question, ça. Je savais que tu allais me la poser. Enfin, j'espérais que tu me la poses. Quand vous êtes en burn-in, que vous êtes en cortisol élevé, que tout est à fond, quelque part, ben vous êtes irritable, vous êtes en feu. Et c'est là qu'on a des symptômes cliniques d'irritabilité, on ne supporte rien. Ça, c'est le côté neurotransmission un petit peu. On attrape tout ce qui passe. C'est notre immunité qui commence à être un peu moins bien. J'ai un peu de douleur arthrosique, j'en ai un peu plus. L'inflammation est plus importante. Et au niveau du cortisol, le cortisol est toujours élevé. Voilà. Alors, comme il est toujours élevé, le corps n'a jamais aimé tout ce qui était trop longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme l'insuline, on rentre en résistance. On fait de la résistance au cortisol. Cortisol, en médecine, on l'utilise comme anti-inflammatoire. Eh bien, quand il est trop élevé et qu'il est résistant, il n'est pas pro-anti, il devient pro-inflammatoire. C'est pour ça qu'on va avoir un peu plus de douleur, par exemple. Donc, si je veux répondre à ta question, quand je suis en feu, j'aurai un peu plus mal de partout, je serai irritable, je vais rien supporter, je vais être donc pro-inflammatoire, je vais attraper tout ce qui passe, mon immunité est moins bonne, et là donc voilà, c'est vraiment le feu, voilà le feu. Et qu'est-ce qui se passe avant d'être épuisé complètement? Ben, il y a une petite phase vachement intéressante au niveau du cortisol, c'est que un symptôme clinique que peut-être beaucoup d'entre vous ont ressenti à un moment donné de leur vie, c'est que je suis fatigué, mais je suis fatigué quand je m'arrête dans l'action. C'est-à-dire que si j'ai un stress, j'ai encore suffisamment de réserve de cortisol et d'efficacité pour mobiliser mon cortisol et donc monter ma tension, répondre à ce stress et répondre à la sollicitation. Et quand je m'arrête dans cette sollicitation-là, au lieu d'être normal, je suis très fatigué. C'est là, j'ai plus d'énergie. C'est comme si j'avais vidé mes batteries. Mais ça, c'est un symptôme. C'est notre passage entre la résistance et l'épuisement. L'épuisement, je vais être tout le temps fatigué. On me demande quelque chose, je ne vais pas le faire. Mais avant ça, il y a cette phase intermédiaire où je peux faire quelque chose, mais quand j'arrête la sollicitation, ce qui était le plus important, répondre à la demande, dans un truc du normal, le normal basique, là je suis extrêmement fatigué. Mon corps parle, j'ai les yeux qui brûlent, je bâille, j'aurais besoin d'aller au lit, laisse-moi tranquille, laisse-moi sur le canapé. Et ça c'est vraiment typique de la phase entre l'épuisement, la résistance et l'épuisement. Cliniquement, c'est quelque chose que les gens, quand on leur explique, ressentent vraiment et disent « Ah ouais, ça c'est moi ». Mais là, dans la biologie, on voit cette phase entre les deux. Et s'ils ne font rien, s'ils continuent comme ça, ils vont aller vers l'épuisement.
Et ils vont dans le mur. Merci beaucoup, docteur. On va marquer une petite pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite et la fin de cette émission.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Jacques Bassier sur Nutri Radio, merci d'être avec nous. Vous, Jacques Bassier, et vous, chers auditeurs, on parle aujourd'hui de ces hormones déstress. Alors, vous avez cité beaucoup d'hormones finalement, et on se rend compte qu'il n'y a pas que le cortisol. Quand on parle de stress, en général, on parle que du cortisol, mais il n'y a pas que le cortisol.
Il n'y a pas que le cortisol, mais c'est vrai qu'il est assez central, que ce soit dans l'activité physique ou que ce soit dans la régulation de notre stress psychologique, il est vraiment très central.
Est-ce qu'on peut le réguler ?
On peut le réguler, mais d'abord, avant de le réguler, il y a des choses qui sont... J'ai essayé de vous rappeler un petit peu à quoi il servait, ce cortisol. Mais si on peut rentrer dans les détails juste un petit peu pour montrer quand même combien il est important. Vous savez que c'est une des rares hormones qui baisse peu avec l'âge. La plupart de nos hormones, on va soit les arrêter, comme la ménopause ou l'andropause. Enfin on appelle ça déficit androgénique lié à l'âge pour les hommes, en vieillissant. La testostérone qui chute. Et la DHEA, la prégnolone, il y a plein d'hormones comme ça. On perd 80% de nos hormones. Il y a qu'un peu la thyroïde et le cortisol, qu'on perd très peu. Cortisol, on perd même pas 20% à 80 ans, par rapport à 20 ans. Donc on voit que c'est une hormone tellement importante que celle-là, on ne peut pas se permettre de la baisser en quantité, en synthèse, parce qu'on meurt, on n'est pas capable d'adaptation sinon. Donc ça joue, ça fait monter la glycémie, ça inhibe les ostéoblastes, par exemple le cortisol quand il est trop sécrété, quand vous avez un hypercorticisme fonctionnel, ben vous allez faire de l'ostéoporose, vous allez détruire votre os, vous allez abîmer votre muscle, vous allez fondre, vous allez monter votre tension artérielle, vous allez modifier votre réponse immunitaire. Donc là, je parle de la phase de résistance, bien sûr, quand je suis en hypo, après, quand je suis plus rien, j'ai plus rien qui va, non plus. Mais dans ces cas-là, donc voilà, je vais modifier ma réponse immunitaire, je vais avoir des symptômes aussi centraux, c'est-à-dire cérébraux, de dépression, d'agitation, de problèmes de mémoire, de cognition, de fonction cognitive qui vont être abîmés par cet hypercorticisme. Donc vous voyez que le cortisol, bien sûr, c'est l'hormone du stress, mais il mobilise toutes les énergies des corps et toutes les fonctionnalités du corps. Et donc, quand ça fonctionne bien, c'est bon. Quand ça fonctionne pas bien, c'est une vraie catastrophe. C'est le cerveau, c'est les os, c'est le muscle, c'est l'immunité, c'est tout qui est dysfonctionnel. Donc, c'est vraiment une hormone donc hyper importante à réguler. Il faut vraiment s'en occuper. On pense aujourd'hui qu'une partie de... Normalement, on a des molécules qui sont chargées de nous défendre contre les cancers. Ben, on sait qu'il y a certains moments de la vie où le cancer n'est pas complètement exprimé. Ben, le stress est un facteur important parce qu'on va moins bien lutter immunitairement contre les cellules cancéreuses. On est moins capable de les repérer et de les détruire. Alors qu'on a normalement cet arsenal thérapeutique pour le faire. Ben, quand vous avez un cortisol trop élevé trop longtemps, ben, c'est quelque chose qui peut mettre à mal nos défenses vis-à-vis de cette problématique-là, par exemple. Alors, peut-on le réguler? Peut-on, tu me posais la question? Mais oui, bien sûr, il y a plein de choses. Là aussi, on commence par l'hygiène de vie. Il faut savoir que le cortisol, c'est l'hormone de l'activité. Ça mobilise l'énergie quand je suis actif. Quand je dors, j'en sécrète beaucoup moins. Donc, on a un chronorythme, nuit, jour, où la nuit, le cortisol est très bas. Et dès le matin, c'est là où on a un pic de cortisol en se levant pour mobiliser l'énergie, station allongée, station debout. Et je vais travailler, ou je vais faire du sport, ou je vais faire ce que vous voulez. L'amour, si vous voulez, tout à l'heure, tu m'avais parlé de sexe, je crois. Ben voilà, tiens, pourquoi pas? Ben là, ton cortisol va monter. Et parce qu'il te faut de l'énergie pour ça. Il faut te réveiller un petit peu quand même. Et donc,
ah bon,
du coup, oui,
faut
te réveiller. Ah, on peut le faire en dormant, mais c'est quand même agréable si on ne s'en souvient pas.
C'est ça que j'y arrive pas.
Et donc, du coup, au-delà du sommeil, bien sûr, qui est fondamental dans la régulation du cortisol, les troubles du sommeil vont engendrer des troubles de la sécrétion du cortisol et tout le cortège que je viens d'exprimer avant. Les pauses de la journée, on est fait pour bouger dans une journée, mais on n'est fait pas pour toujours bouger. On doit avoir des pauses. Et donc la pause au repas, la pause tout court, je m'allonge aux 5 minutes dans les petits moments. Moi je dis aux gens, je donne l'image toujours quand il y a un stress chronique et qu'il les brûle. Je leur dis, mais vous êtes comme la lumière dans la maison, là, comme ça, vous avez la lumière toujours éclairée. Quand vous quittez une pièce, c'est pas Versailles ici, vous éteignez la lumière. Mais le stress chronique, on n'éteint jamais les lumières. La lumière est toujours éclairée. Vous vous rendez compte, la durée de vie des ampoules, la note d'électricité,
C'est du LED, c'est du LED.
C'est du LED, ça coûte quand même en électricité et en énergie. Après, la régulation toute bête dans le mode de vie, c'est l'activité physique. Quand je fais du sport, je fais monter le cortisol, mais on ne fait pas que ça, on fait des endomorphines, des choses apaisantes. Et quand je vais m'arrêter, là, waouh, qu'est-ce que je suis bien.
C'est vrai ça.
Et c'est bien. Et bien là, le cortisol est plus bas. Et du coup, on éteint la lumière. Donc, c'est une manière de réguler notre stress, y compris psychologique, en faisant...
La méditation aussi.
La méditation, c'est merveilleux. La cohérence cardiaque, la méditation, ces petits moments de pause. Toutes les applications, vous avez 5 minutes de cohérence cardiaque, de respiration, 6 cycles par minute. Ben, tout ça, ça fait baisser le cortisol, on éteint la lumière. D'ailleurs, et dans la vie, on a besoin de ça.
Est-ce que c'est bon, ces applications? Parce que moi, je me pose la question, dans le sens où on est toujours connecté. Est-ce que finalement, on a une appli, on se télécharge, après on est en Bluetooth, on a notre casque, quelques heures. Et le Bluetooth, on a quelque part toujours des fréquences, enfin, j'en sais pas, moi je sais plus, je suis perdu.
Non, moi au départ, j'ai beaucoup travaillé sur la cohérence cardiaque en utilisant les applications. Pour moi, au départ, pour maîtriser, pour comprendre et ressentir une cohérence cardiaque, mais on l'a fait en sport aussi. Et après, pour le faire travailler les patients, j'avais des applications de cohérence cardiaque, on s'amusait avec ça. Après, quand on comprend la cohérence, quand on ressent la cohérence cardiaque, on n'a pas besoin d'application. Moi, ce matin, pour venir vous voir, je suis venu de Marseille, et en voiture, il y a des moments de grande cohérence cardiaque. C'est beau, on est devant la béatitude du lever de soleil, et on est apaisé, le rythme est calme, la route est pas stressante, il n'y a personne, enfin voilà. Donc du coup, on la ressent, la cohérence cardiaque, c'est un état de bien-être qu'on arrive à ressentir. Alors du coup, l'application nous sert un petit peu à ressentir peut-être qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque dans ce qu'on appelle le proprioceptif de mon corps, le ressenti de mon corps. Est-ce ça peut être intéressant pour ça.
Est-ce que le silence, ça peut être quelque chose qui, on est de moins en moins de moments silencieux. Est-ce que le silence, ça peut être un moment pour... Alors il y en a, c'est le contraire. Dès qu'il y a le silence, le cerveau il commence à réfléchir dans tous les sens. Mais est-ce que le silence, il n'est pas quelque part salvateur?
Oui, bien sûr, parce que notre vie est remplie de bruit aujourd'hui. Des fois, on le fait exprès parce qu'on n'aime pas le vide. On a peur du vide. Alors le silence, c'est un petit peu le vide. Le vide de bruit en tout cas. Donc du coup, évidemment que le silence favorise un état de cohérence cardiaque, par exemple. Il est plus facile au départ, dans le silence, de se mettre en cohérence cardiaque et donc de baisser mon cortisol, d'être apaisé. Je rappelle, le cortisol, il excite. D'ailleurs, quand on fait, nous, une corticothérapie en médecine, on ouvre l'appétit des gens. Ça ouvre l'appétit, ça les excite, ça les rend irritables. Donc du coup, c'est ce qui se passe naturellement quand on est stressé. On n'a pas besoin de corticoïdes, on le fait naturellement par nos sécrétions. Donc le silence... La cohérence cardiaque, la pause, un beau coucher de soleil, la béatitude, je pense à rien, le mindfulness, la pleine conscience, toutes ces choses, la méditation, toutes ces choses-là, bien sûr, favorisent la baisse de cortisol et notre gestion de stress, bien sûr.
Et alors, puisqu'on parle de physionutrition, forcément, est-ce qu'il y a aussi des actifs, des ingrédients, des choses comme ça qui peuvent nous aider?
La nourriture est vraiment importante, ne serait-ce que je vous ai parlé de chronorhythme du sommeil, mais il y a un chronorhythme alimentaire aussi, où si vous mangez un peu plus léger le soir, le plus tôt possible, vous dormirez un petit peu mieux, vous ne serez pas en train de digérer, donc vous allez favoriser un meilleur sommeil, donc ça c'est de la logique. Le matin je mange comme un roi, midi comme un prince, ce soir comme un pauvre. Ma grand-mère, moi, à 18h, elle avait mangé sa soupe, elle avait fait sa promenade récréative derrière, et à 20h elle était au lit, elle dormait comme un bébé. Voilà, il y avait des physiologies comme ça, et que nos rythmes modernes ont mis un petit peu à mal. Là, on fait le gros repas le soir, le tardif, parce qu'on finit tard des fois de travailler. Et ça, c'est pas les meilleures conditions pour mettre, pour bien fonctionner de ce côté-là. On continue à faire travailler le corps alors qu'il a besoin de repos. Pour répondre à ta question, oui, il existe des boosters de cortisol. Il y a notamment des plantes comme le cassis, la réglisse par exemple, qui vont permettre de différentes manières de booster le cortisol, le cassis. Alors le cortisol, c'est comme la thyroïde, il y a un axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Le cortisol est fabriqué par les surrénales. Au niveau de l'hypothalamus, il y a une petite hormone qui s'appelle le CRH qu'on va sécréter, qui va donner l'ordre à l'hypophyse de sécréter l'ACTH, et l'ACTH va être libéré dans le sang et va donner l'ordre à la surrénale de fabriquer le cortisol. Mais le cassis, par exemple, stimule l'ACTH au niveau central, donc stimule la fabrication de cortisol en finalité. La réglisse permet de mieux transformer la cortisone en cortisol, c'est de la chimie tout ça. Mais le cortisol est plus efficace en termes de fonctionnalité. Cortisone, c'est quelque part un cortisol de réserve. Donc la réglisse permet de transformer cette hormone de réserve en hormone efficace. Ça, c'est pour booster un petit peu. Donc, vous voyez, quand on est en épuisement, plutôt, on va utiliser des plantes comme la réglisse, le cassis, pour essayer de rebooster un petit peu cet cortisol au-delà de notre mode de vie et tout ce qu'on a cité précédemment, bien sûr. Après, il y a ce qu'on appelle la grande famille des adaptogènes. C'est des régulateurs, quelque part. C'est des moduleurs. Or, on peut utiliser dans ces phases un peu d'hyper Ou alors, entre les deux dont tu parlais tout à l'heure, entre la phase de résistance et la phase d'épuisement, là, ces adaptogènes sont assez intéressants aussi. Ils vont essayer de nous adapter à la situation. Or là, c'est, on pourrait citer la rhodiole, le ginseng, la ashwagandha, parmi les plus connus, il y a celle-là, mais il y en a plein d'autres aussi. Il y a la bacopa, par exemple, qui est considérée aussi comme un adaptogène. Et après, si on veut faire baisser le cortisol au-delà de la méditation ou de la cohérence cardiaque, il y a des plantes plutôt apaisantes. C'est les plantes qu'on connaît dans la sphère psychologique, comme on appelle ça GABAergique et sérotoninergique. Tout ce qui fait... La sérotonine a plutôt un rôle, les zones du cerveau où la sérotonine est active, c'est plutôt pour me faire prendre du recul, m'apaiser un petit peu. Et le GABA, c'est pareil, c'est un inhibiteur, donc il apaise. Donc toutes les plantes qui ont des vertus GABAergiques, comme la valériane, la passiflore par exemple, comme l'aubépine aussi en partie, sont intéressantes dans la phase d'hyper pour faire baisser le cortisol. Et tout ce qui est un peu sérotoninergie comme le griffonia ou comme le safran sont intéressantes là aussi dans la phase d'hyper. Donc vous voyez que au-delà de le cortisol, moi je sais que je fais beaucoup j'utilise pas mal de phytothérapie dans ces moments-là. Et quand les gens sont en hyper, au-delà des conseils de bon sens qu'on a parcouru, activité physique, alimentation ou quoi, ben dans l'hyper, par exemple, je vais plutôt donner des plantes GABAergiques et sérotoninergiques, comme griffonia, safran, valériane, passiflore, tout en essayant de réguler avec un adaptogène comme la rhodiole ou ginseng ou ashwagandha, par exemple.
La rhodiola ?
La rhodiola, oui. Et quand les gens sont épuisés, ben là, c'est plutôt des choses qui peuvent booster aussi, comme le griffonia ou quoi, mais ça va être plutôt les boosters comme la réglisse, cassie ou d'autres encore. Voilà. Vous voyez, un peu, c'est une alchimie où, en fonction du stade où je suis, je vais avoir un petit peu des options différentes. Or, c'est pour ça qu'il n'y a pas un stress, il y a des stress, mais il y a aussi des stress de par leurs caractéristiques d'un point de vue psychologique. On n'est pas dans les mêmes phases, alarme, résistance, épuisement, ou entre résistance et épuisement. On n'a pas les mêmes plantes, par exemple, qu'on devra utiliser. Voilà, on doit s'adapter à chaque situation.
Très bien, vous avez dit tout à l'heure, et on y reviendra d'ailleurs la semaine prochaine, vous avez parlé, on connaît bien le burn-out, et vous avez commencé à décrire le burn-in. Je vous propose qu'on consacre l'émission de la semaine prochaine à ce burn-in pour en savoir plus exactement, bien en disséquer les mécanismes. Voilà, on va y revenir, ça vous va
Fabrice, alors ça c'est génial parce que en pratique quotidienne de médecin, on voit beaucoup plus de burn-in que de burn-out. Les burn-out sont surestimés, il y a des épuisements, c'est vrai, des fatigues chroniques, mais le burn-in, c'est... Je sais pas, bon, j'ai des biais de sélection dans ma patientèle certainement, mais quand même, la moitié des gens peut-être que je vois sont burn-in, c'est-à-dire résistance à stress pour diverses raisons, et donc c'est vraiment un vrai tueur. Hein, il va nourrir toutes les pathologies dont ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, maladies chroniques non transmissibles, donc le diabète, les dépressions, les cancers cardiovasculaires, ça va nourrir tout ça.
Alors mesdames, messieurs de la sécurité sociale, préparez-vous avec les burn-in, arrêt de travail burn-in, et si vous êtes au travail, vous voulez changer un peu, dire non, burn-out, mince, je peux pas avoir un burn-out, ma collègue est allée le mois dernier, vous allez sortir la carte du burn-in. On y revient la semaine prochaine avec le docteur Jacques Bassier, merci d'avoir été avec nous docteur.
Mais c'est un grand plaisir.
Et donc on se retrouve la semaine prochaine, cette émission vous la trouver en podcast à partir de 18h ce dimanche sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast. Mesdames, messieurs, bonsoir, c'est le retour de la musique tout de suite, restez avec nous.
Objectif physionutrition, Jacques Bassier sur Nutriradio.